RCF.
Bonjour à tous et bienvenue au pied de la lettre, le rendez-vous avec la littérature sur RCF. C'est la rentrée encore, des dizaines, des centaines de livres tout neufs arrivent en librairie. De quoi s'échapper du Covid avec de grandes histoires. Les deux romans d'aujourd'hui nous parlent de la grande histoire, effectivement, avec ses horreurs, ses douleurs, ses espoirs et ses échecs. Metin Arditi nous raconte l'histoire de deux familles, l'une arabe, l'autre juive, qui vivent en harmonie à Jaffa jusqu'à ce que le XXe siècle parte à la dérive. Rachel et les siens est publié chez Grasset. Quant à Sophie Blandinière, elle nous mène en enfer, elle nous montre de l'intérieur la vie du ghetto de Varsovie quand l'inimaginable survient, que la ville devient prison, que les hommes, les femmes, les enfants sont victimes de l'absurde et du tragique aveuglement. La chasse aux âmes est publiée chez Plomb.
Au pied de la lettre, Christophe Héningue.
Bonjour Metin Arditi.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en duplex de Suisse. Très heureux de vous accueillir au pied de la lettre. Vous êtes avec nous grâce à ces moyens techniques mis en œuvre par le réalisateur de l'émission, Pierre-Henri Paget. Vous habitez en Suisse, pays auquel vous avez consacré un dictionnaire amoureux, mais vous avez aussi écrit un dictionnaire amoureux de l'esprit français que vous partagez sans doute avec nous un peu.
Ah ben comment ? Bien sûr.
Vous êtes surtout un bel écrivain, un merveilleux conteur. Je rappelle simplement hein, Le Turquetto, La confrérie des moines volants, L'enfant qui mesurait le monde, qui a obtenu le prix Méditerranée 2017. Mais oui, parce que vos histoires, elles sont souvent ancrées sur le pourtour méditerranéen. C'est un creuset d'histoire.
Ah ben oui, c'est le creuset de notre civilisation. Et j'ajoute en particulier l'Est de la Méditerranée, à qui l'Occident doit tout et que l'Occident comprend si mal.
Vous nous en parlerez à l'occasion de la sortie de votre roman. Bonjour Sophie Blandinière.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, auteur, vous avez publié l'an dernier Et le sort tomba sur le plus jeune. Eh bien, ça aurait presque pu convenir au livre dont vous nous parlerez aujourd'hui, de votre nouveau roman. Enfin, pas tout à fait, mais bon. Il est question d'enfants aussi et des plus jeunes. En racontant le ghetto de Varsovie, votre livre s'appuie aussi sur une sombre page d'histoire. C'est un peu une forme de témoignage ?
D'une certaine manière, oui, et c'est fondamental aujourd'hui, puisque la plupart des témoins sont morts ou sont en train de mourir, et que le témoignage, de toute façon, était déjà un problème de dire et de témoigner de cette époque-là quand on l'avait vécu. Et donc, il me semble que c'est fondamental aujourd'hui de prendre la relève et que les vivants fassent ressurgir les morts et ressusciter ces morts-là, ces morts du ghetto.
Garder la trace, c'est aussi hein, ce que vous soulignez à travers ce roman. Des livres, des histoires, et puis au pied de la lettre, il y a une place toute particulière à la poésie. Stéphane Bataillon nous rejoindra, grand connaisseur de la poésie, et chaque semaine, il nous présentera un recueil, un poète ou un événement. Alors, Rachel et les siens, Jaffa, 1917, Tel Aviv, 1982. C'est 70 ans d'histoire, et plus que cela encore, c'est toute la destinée des Juifs et des Arabes sur cette terre de Palestine. Vécu, exprimé, présenté à travers la vie de deux familles, Metin Arditi, c'est un peu ça ?
C'est tout à fait ça. Deux familles qui partagent la même maison, et cette maison, donc la maison a deux logements et une seule cuisine. L'une des familles est palestinienne chrétienne, et l'autre est palestinienne juive, c'est-à-dire ce sont des juifs qui sont en Palestine depuis des générations, qui parlent arabe chez eux à la maison, qui mangent arabe, s'habillent arabe, qui ont des mœurs arabes, et donc qui forment avec l'autre famille une unité qui n'est pas étonnante, qui est assez naturelle à l'époque. Évidemment, l'histoire et les événements va faire en sorte que cette belle unité va exploser. Et malgré cette explosion, les liens d'amour entre les principaux protagonistes vont résister et vont finir quand même par faire que ces familles vont se fondre l'une dans l'autre.
Dites-nous, donnez-nous quelques éléments historiques, parce que 1917, c'est pas anodin, c'est la déclaration Balfour, c'est aussi la présence turque. Un petit rappel historique.
Alors, la Palestine était sous domination ottomane depuis très longtemps, jusqu'en 1920, époque à laquelle l'Occident a confié la gestion de la Palestine aux Britanniques. C'était donc le mandat britannique. Mais c'est intéressant quand même de voir comment les choses se sont passées dans le temps. La chronologie est intéressante parce que cet Orient très vaste, hein, qui ne comportait pas seulement la Palestine, mais le Liban, ce qu'on appelait le grand royaume de Syrie, cette immense terre a en quelque sorte été programmée bien avant l'abandon des Ottomans, programmée par les Occidentaux et en particulier par la France et la Grande-Bretagne, qui ont délégué en 1916 deux diplomates franchement de troisième rang, un Picot pour la France et un Sykes pour l'Angleterre, la Grande-Bretagne, qui ont fait ce qu'on appelle l'accord Sykes-Picot, et ils se sont partagés, alors qu'ils ne possédaient rien, ils se sont partagés l'Orient de la même manière que l'on se partage une bête que l'on vient d'abattre. Ils se sont servis. Et c'était le début de la fin. Et ça a été, ensuite, il y a eu, comme vous dites, la déclaration Balfour. Évidemment, beaucoup de gens dans le monde, à cette époque-là et encore aujourd'hui, étaient désireux de voir le peuple juif trouver sa terre. Simplement, au moment de la déclaration Balfour, par donc Lord Balfour, qui était ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, qui a écrit à Lord Rothschild en disant « Nous voyons d'un œil très favorable l'établissement d'un foyer juif en Palestine ». C'était en 1917, c'était novembre 17, et c'était encore bien loin de l'abandon de la Palestine par les Ottomans. Donc la Grande-Bretagne faisait cadeau très généreusement d'un territoire qui ne lui appartenait pas du tout.
Sur lequel elle n'avait aucun pouvoir.
Absolument. Non, le plus grave, si vous voulez, ce n'est pas tant qu'elle n'avait aucun pouvoir, duquel elle ne comprenait rien. C'est ça qui est grave. Et donc, je le raconte dans Rachel et les siens, cette déclaration a été reçue, elle continue d'être reçue avec une joie extraordinaire. Le problème, c'est que, comme on dit en physique, le problème était mal posé.
Alors on va en venir à Rachel. C'est elle qui tient cette histoire. Elle va traverser le siècle, Rachel. Et traverser les événements aussi, mais elle incarne toutes les difficultés, les épreuves de cette période, de ce XXe siècle.
Alors elle les vit, elle les incarne et elle les vit. C'est-à-dire qu'elle a grandi avec Mounir, qui est son aîné de 2 ans, c'est le garçon de la famille Khalifa, les Palestiniens qui partagent la même maison avec la famille de Rachel. Mounir est un Palestinien chrétien très engagé dans la défense de l'identité palestinienne, qui plus tard va financer des mouvements réclamant l'autonomie palestinienne, et du reste cela débouchera sur un drame qui touchera Rachel. Et puis il y a Ida que les parents de Rachel ont adoptée. Ida, qui est une Ashkénaze d'origine russe et polonaise, qui a perdu ses 2 parents, et en particulier la mort de son père, la famille de Rachel n'est pas totalement innocente parce qu'elle a refusé de le cacher. Et il a mis fin à ses jours. Donc, il recueille cette fille qui, au départ, évidemment, crée un certain antagonisme dans ce trio, et qui, avec le temps, fera avec Rachel et avec Mounir un tout. Et ce tout ne va jamais se dissocier. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très fort. C'est-à-dire qu'il y aura des liens de sang entre ces trois-là, qui vont tenir sur le siècle. Alors Rachel deviendra une grande dramaturge parce qu'elle aime raconter des histoires depuis toujours, depuis qu'elle est enfant. Elle invente, elle raconte, elle adore ça. Et Ida sera une actrice. Ida sera une actrice israélienne et Rachel sera une dramaturge internationale. Et entre Rachel, Ida et Mounir vont s'établir des liens très forts, très des fois très violents et toujours très forts, très intimes.
Des liens qui sont aussi à travers ce monde de violence, hein, et vous le soulignez, ben alors on va le voir avec Sophie Blandinière, il y a le ghetto de Varsovie, il y a cette période, il y a voilà, cette triste page d'histoire des nazis, mais vous montrez bien aussi que les persécutions en Europe, le refus du peuple juif, il ne date pas simplement, on peut pas le résumer à la période de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un moment où vous écrivez: être juif, c'est être chassé de soi, de chez soi.
Vous avez parfaitement raison. Vous voyez, à la fin du 19e siècle, il y avait toutes sortes de colonies, on les appelait comme ça, qui se constituaient en Palestine. Et l'Empire ottoman a toujours été un empire assez accueillant. Je peux le dire, puisque ma famille, d'origine juive espagnole, s'est établie dans l'Empire ottoman au XVIe siècle, comme elle n'aurait pas pu s'établir ailleurs en Occident. Donc il y avait des Suédois, des Écossais, des Anglais, des Allemands, les Templiers, et il y avait des Juifs qui créaient des colonies. Et au fond, tout cela se passait assez bien jusqu'au début du XXe siècle, vers les années 1910, où là, il y a eu un afflux d'immigrants ashkénazes, parce qu'effectivement, leur situation était dramatique en Russie, en Ukraine, en Roumanie, en Pologne. Et ces gens n'avaient pas où aller, donc ils allaient en Palestine, ils s'y installaient, et ils s'y installaient avec une ferveur, une envie de vivre, une envie de faire, qui était vraiment extraordinaire. Je crois que j'en parle abondamment dans le livre, et il faut reconnaître cela.
Vous expliquez, hein, c'est un peuple du livre qui devient un peuple de la terre.
Voilà, exactement. Et il y a l'un des personnages aussi qui dit: nous étions le peuple du livre, nous voulons devenir également le peuple du glaive et de la terre. Et ces gens s'engagent, mais vraiment de façon quasi surhumaine. C'est-à-dire, ils assèchent des marais puisqu'ils doivent acheter des terres. Les marais sont les terres les moins chères. Ils meurent de malaria, ils tombent comme des mouches. Et puis, disons, la population locale palestinienne voit ces développements. Tel Aviv, c'était des dunes en 1909. En 1925, c'était une ville moderne. Et il voit ça, évidemment. Et il y a un phénomène d'angoisse. Que va-t-il se passer? Ils sont de plus en plus nombreux. Que se passera-t-il avec nous? Et le problème de Rachel, c'est qu'au début de l'histoire, elle est déjà prise dans un étau, parce que elle est juive, mais elle est aussi en symbiose avec les Palestiniens. Elle est aussi palestinienne. Mounir est palestinien. Mais les Ashkénazes qui viennent sont aussi juifs. Et Ida est juive, ashkénaze. De quel côté doit pencher son cœur? Eh bien, sa force, c'est qu'elle ne choisit pas. Son cœur, il est partout. Et quand je dis Rachel et les siens, c'est Rachel et les Juifs et les Palestiniens et les Arabes et les chrétiens, tout à fait dans l'esprit du projet qu'avait Martin Buber, auquel le mari de Rachel, dans le roman, participe. C'était ce fameux projet Brit Shalom, un seul État démocratique pour tous.
Avec cette ouverture importante à l'autre, c'est d'ailleurs ce que la phrase de Martin Buber que vous mettez en exergue. Le Talmud raconte que la cigogne est appelée en hébreu Hassida, la pieuse et l'affectueuse, pour la raison qu'elle aime les siens. Pourquoi alors entre-t-elle dans la catégorie des oiseaux impurs? Et la réponse, parce que, répondit le rabbi, elle ne dispense son amour qu'aux siens.
Ouais,
il y a une forme d'égoïsme ou d'impossibilité à embrasser l'humanité tout entière?
C'est pour elle une impossibilité, mais c'est une injonction aussi du Talmud de dire « Tu aimeras tout le monde, tu aimeras ton prochain, quel qu'il soit, tu aimeras tout le monde. » J'ai découvert ce passage quand j'étais à Jaffa pour le livre, pour mes recherches. À un jet de pierre de l'école Tabitha où va Rachel et à un double jet de pierre de la rue Naguib Boustros où est sa maison et j'ai eu vraiment la chair de poule en découvrant ce texte de Martin Buber. C'est pour ça du reste que j'ai dédié mon livre à sa mémoire, parce que ce texte, ces quelques mots disent tout et disent aussi tout l'amour qu'il y a dans la tradition hébraïque et qui n'est pas toujours respectée, comme on sait aujourd'hui.
Parce que vous l'avez bien montré, hein, il y a ces deux familles qui sont liées par toute leur histoire, mais aussi quasiment par le sang. Enfin, c'est une vraie fraternité. Et vous soulignez bien, hein, 1923, 1936, puisque 1938, votre livre est construit un peu comme un journal des différentes époques. Les parents s'inquiètent et se rendent compte que tout s'effondre. Quel pays allons-nous laisser à nos enfants?
Ouais. Ils ne savent pas où se tourner, les parents. Le monde s'écroule autour d'eux. Ils ne s'attendaient pas à ça. Malgré tous ces bouleversements, ces trois personnages principaux vont rester unis et en quelque sorte vont se fondre tous les trois dans Gershom, qui est le personnage qui, à la fin, n'est-ce pas, qui est le résultat, qui est le mélange des 300.
Mais ce qui est important aussi, ça vous le montrez, alors il y a ce contexte politique, mais il y a plus que ça, c'est aussi c'est votre fibre de romancier. Rachel, c'est une grande amoureuse et une femme blessée en même temps.
Ah oui, c'est une personne qui vit des passions et qui déteste le compromis. C'est le contraire de la tiédeur. Et elle tombe amoureuse, par exemple, d'un diplomate français très brillant, très beau, mais qui a un passé et un héritage très antisémite. Mais elle est folle amoureuse de lui. Lui, il est fou amoureux d'elle aussi, parce que ce n'est pas n'importe qui, Rachel. C'est vraiment une personnalité. Oui, elle traverse ça avec toujours la tête haute. Toujours. Et ses pièces de théâtre, elle deviendra une grande dramaturge, jouée sur toutes les grandes scènes du monde. Et ses pièces de théâtre ne laissent pas de place non plus au compromis. Elles sont toujours engagées, elles sont toujours très riches, pleines de passion.
Une force à travers l'épreuve, vous écrivez, une forteresse de cendres.
Oui, c'est ça. C'est un journaliste anglais qui lui dit « Vous êtes une forteresse ». Elle répond « Une forteresse de cendres ». C'est ça, Rachel. Ouais.
Alors, vous parlez du théâtre. C'est important, le théâtre, dans la vie de Rachel. Et pourtant, à la fin de sa vie, le succès des pièces, écrivez-vous, ne compensait ni les pertes, ni les trahisons, ni la solitude.
Ah oui, ça, je pense que vous pouvez interroger, vous prenez 100 grands artistes de toutes les expressions artistiques possibles et vous leur posez cette question. Est-ce que vos succès compensent la solitude? Et vous aurez 100 réponses négatives. Mmh. C'est comme ça. Il y a pas, le propre de l'artiste est effectivement de jeter sur la vie, sur la réalité, un coup d'œil que personne n'a jeté. Et si ce coup d'œil ne dérange pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt là-dedans.
Mmh. Voilà. C'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous recherchez aussi peut-être à travers l'écriture, Metin Arditi. Vous confrontez à cette solitude. Oui.
Absolument. J'essaye de la canaliser comme je peux, mais en même temps, vous voyez bien qu'écrire un livre comme Rachel et les siens pose problème à un certain nombre de personnes que je connais. Moi, franchement, je me dis « so what ?» Et alors, c'est la vie.
Il fallait l'écrire.
Alors, absolument. Ça m'a pris 10 ans d'écrire ce livre. Entre-temps, j'en ai écrit d'autres, mais c'était très difficile, très douloureux, et aussi insupportable de ne pas avoir écrit. Et donc, il y a 2 ans, j'ai dit tant pis, je fonce.
Il faut le faire. Sophie Blandinière, vous avez lu Rachel et les siens, le livre de Metin Arditi. Qu'est-ce que vous avez retenu, ressenti?
J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très bien construit. C'était très clair que le personnage de Rachel est très fort et qu'on s'y attache vite et qu'on discerne très bien en quoi effectivement elle a les épaules pour porter le livre et cette histoire-là qui est tumultueuse, c'est très touchant. Il y a plein de séquences qui m'ont beaucoup touchée, notamment la séquence du pardon que Kida donne à son père adoptif qui est vraiment bouleversante. Évidemment la mort de son époux, cet intellectuel universitaire et de sa fille et son rapport à la fille qu'elle porte ensuite, très compliqué, son rapport de mère à cet enfant à qui elle en veut et avec qui finalement les choses s'arrangent. C'est vraiment très beau, ça m'a beaucoup touchée. J'ai vu plein d'analogies en plus avec
ce que vous avez écrit, évidemment,
roman,
c'est pour ça que vous êtes
les
là.
Les familles en parallèle, les voilà, et le travail historique, et parce qu'effectivement, il y a beaucoup de travail. On est des laborieux, les artistes, avant d'être des artistes. Et
vous vous sentez artisan aussi?
Je me sens artisan et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Metin Arditi de la solitude de l'artiste. Marguerite Duras en parlait dans une interview en disant en fait les écrivains on est fous parce qu'on est seul et que la solitude rend fou. Donc, mais je crois c'est un travail oui, qui est très solitaire et il y a beaucoup de travail parce que arriver à construire de manière claire, j'en sais quelque chose, voilà une histoire fictive, mais qui est totalement puisée, inspirée viscéralement, matériellement presque, du réel et là de l'histoire, en plus sur une période beaucoup plus large que la mienne, c'est très compliqué. C'est très compliqué à mettre en place, c'est très compliqué parce qu'en plus il y a beaucoup de personnages, donc il faut arriver à faire en sorte qu'on discerne très vite les personnages et que l'histoire déroule d'une manière fluide avec tous les heurts que la fiction met dedans et tourmente. Mais
c'est un livre tellement vrai, donc,
chapeau,
mais qui se lit comme
merci.
Un roman. Voilà. Metin Arditi, vous restez avec nous. On va écouter juste un extrait de votre livre lu par Stéphanie Gallet.
À la maison, ou sur le chemin de l'école, à la boutique de son père, ou lorsqu'elle portait un lot de tissus à un client, Rachel écoutait, observait, scrutait, laissait filer son imagination, et très vite, une histoire lui venait à l'esprit. Son vrai, son grand plaisir était alors de la raconter, même si, comme souvent, son public se réduisait à une seule personne. Lorsqu'elle observait sur le visage de son spectateur une attention, une admiration, de la reconnaissance pour le plaisir qu'elle lui procurait, pour l'occasion qu'elle lui offrait de rêver un peu, elle se sentait la plus heureuse au monde. Les mots, les gestes, les intonations, tout lui venait alors avec naturel, comme par magie, au point que souvent, elle avait le sentiment que ce n'était pas elle qui racontait, mais quelqu'un d'autre, caché en elle, qui parlait et bougeait à sa place.
רציתי כנפיים אל האופק בינתיים רציתי לגשת מעבר לקשת בלי לא לחלום בן אדם הוא צריך לחלום בלי לא לנשום בן אדם מבקש לנשום עצב ובא לי פתאום להפליג על המים יש לי כסל ובא לי פתאום להמריא לשמיים יש לי זמן להפיד ולחלום על היום על שישום ועל מוחרתיים לגעת באושר שלנו רציתי לדעת מאיפה באנו תן לה לצחוק בן אדם היא צריכה לצחוק תן לה לראות את לבך הוא רוצה
La Shlom, chantée par la franco-israélienne Yael Naïm. Au pied de la lettre aujourd'hui avec Metin Arditi pour Rachel et les siens, publié chez Grasset, et Sophie Blandinière pour La chasse aux âmes aux éditions Plomb.
Au pied de la lettre, RCF.
Sophie Blandinière, alors La chasse aux âmes, le roman commence avec une scène époustouflante, un crime, un homme meurt dans l'incendie d'une grange et le meurtrier qui vient se dénoncer.
Oui, en effet, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de raconter une histoire de vengeance qui ne s'est jamais produite. Hein. Aucun juif n'est revenu en Pologne ou en Allemagne se venger.
Pour se venger.
Il y a eu un projet de juifs allemands qui ont prévu d'empoisonner des canalisations à Berlin et ils n'ont jamais ils l'ont fait de manière très rigoureuse enfin la planification était très rigoureuse mais ils n'ont jamais réussi à passer à l'acte ils se sentaient toujours aussi allemands ils ne pouvaient pas se venger d'allemands
Alors pour comprendre cette vengeance eh bien, il faut lire tout le livre et à commencer par le narrateur qui revient sur l'enfance de son père Joachim dont la famille vivait à Varsovie. Alors, quelques repères historiques, 1940, 1942, que se passe-t-il ?
Ben, ça commence à être terrible pour les Juifs. En Pologne, en plus, il y a beaucoup de Juifs. C'est là où il y a la plus grosse communauté à part aux États-Unis. Et en Europe de l'Est, évidemment, c'est là où ils sont le plus nombreux. Ils sont 3,2 millions, voire 3,3 millions. Pour info, il en est resté 200 000. Et c'est quand même la moitié des morts de la Shoah en Pologne. Hein, donc, et Varsovie était une ville à 30%, comme beaucoup de grandes villes polonaises, juives. La vie intellectuelle, artistique, était économique aussi, était très, très nourrie et alimentée, animée par les juifs. Donc les Allemands arrivent, ils prennent Varsovie, ils prennent la Pologne. Il y a une partie qui reste aux soviétiques, la partie orientale. Et là, très vite, des mesures restrictives et qui font des juifs des citoyens qui n'ont plus le droit d'être polonais dans un premier temps et bientôt plus des citoyens du tout. Et l'idée, c'est quand même de commencer déjà à les épuiser, à les fatiguer. J'ai lu Hannah Arendt quand j'étais plus jeune, j'étais très frappée parce que je me suis évidemment toujours demandé pourquoi. Elle parle du fait que les Juifs ont contribué aussi, se sont laissés mener à l'abattoir. Et c'est une question qui m'était toujours restée, puisque à part l'insurrection de Varsovie, on connaît assez peu de résistance. Et j'ai compris pourquoi. C'était affamer des gens, les rendre malades, en les enfermant dans un ghetto où le typhus, on les clôt avec une histoire de fausse épidémie de typhus, mais qui déclenche une vraie épidémie de typhus. Ils ont commencé par mourir beaucoup déjà de faim, de fatigue, de maladie. Donc une partie de l'extermination était déjà là. Et résister quand on n'a pas mangé, résister quand on a encore de l'espoir, parce qu'on a su très tard. Ils ont su très tard et ils ont compris très tard et ils ont voulu comprendre très tard qu'il n'y avait vraiment plus aucun espoir et que oui, on les exterminait. Mmh. La logique humaine fait qu'on trouve toujours des raisons de se dire mais non, c'est pas possible. Ils n'auraient pas procédé comme ça avec nous s'ils étaient extrêmement pervers. Et donc, c'était le chaud, le froid, on vous donne des droits. Ils disaient mais non, ils ne vont pas nous tuer, on est une main d'œuvre formidable. Ils nous auraient déjà tués s'ils devaient nous tuer. Donc, très tardivement, hein, le premier rescapé de Chalmnoul, qui est le premier camp, c'est décembre 41. Ensuite, en janvier 42, il y en a deux autres qui viennent, qui sont interviewés par les héros de Oneg Shabbat. Et là, on commence vraiment à accepter que oui, tout le monde va mourir.
Mmh. Pourtant, il y a le portrait ainsi du père, hein, Yacoub, le père, journaliste, qui, avec des intellectuels, ils se rendent compte que le piège est en train de se refermer.
Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de signes qui montrent que c'est insupportable. Déjà, enfin, ils sont privés de liberté, ils sont évidemment dépouillés. Hein, ça, c'était partout. On leur prend toutes leurs affaires. Ils n'ont plus le droit à aucune possession. Ils n'ont plus le droit de travailler. Ils n'ont plus le droit aux écoles. Mmh. Donc, mais ce qui est formidable, encore une fois, c'est que dans le ghetto, il y a des gens qui sont incroyables et qui mettent en place, donc il y a des écoles clandestines qui se mettent en place. Il y a quand même 48 journaux clandestins dans le ghetto. Le théâtre continue, il y a 5 théâtres. Donc la vie, en fait, continue de... Et puis il y a tous les réfugiés. Le ghetto, à un moment, ils étaient quand même extrêmement nombreux. Ils étaient 400 000 dans le ghetto.
Oui, Joachim, qui est passionné de chiffres, qui intervient. Comme quoi, les chiffres racontent une histoire aussi. Hein. 128 000 habitants au kilomètre carré.
C'est fou. Mmh. Ah oui.
Et les enfants, lui et les autres, hein, ses frères, en fait, c'est pas un terrain de jeu, mais malgré tout, ils sont un peu livrés dans ce ghetto, ils vont un peu partout, au risque de leur vie.
On est obligé de... On survit toujours. Et c'est quoi la vie quotidienne quand il se passe des événements extraordinaires? Il y a toujours une vie quotidienne. Alors quand il se passe des événements comme ça, la vie quotidienne devient très compliquée, parce qu'il faut... oui, trouver de l'argent, trouver à manger, et les choses se rétrécissent. J'ai essayé de faire en sorte dans le livre qu'il y ait un rétrécissement progressif et qu'on se sente enfermé dans le ghetto et avec une accélération du temps. Mais le ghetto, il n'y avait plus d'arbres, c'est comme s'il n'y avait plus de saison.
On finit par brûler les livres même.
Bah oui, et même on avait le droit de brûler les livres saints, parce que l'humain est plus important. On a le droit, chez les juifs, de brûler des livres saints. S'il faut survivre, l'homme est plus important que tout, l'homme est plus important que Dieu.
Mais dans ce drame, ce que vous montrez aussi, c'est qu'il y a des compromissions. C'est les Allemands, et puis la police polonaise qui participe, et puis la police juive aussi qui... Alors,
ça a été terrible, mais c'est
le déchirement.
C'est ce qui m'intéressait, c'était quand une situation comme ça se produit, qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce qui reste quand l'homme est nu, comme ça? Qu'est-ce qui reste? Et il reste du sublime et du misérable. Et là, en même temps, on peut comprendre, par exemple, la police juive, ils n'avaient pas le droit d'être policiers, les juifs. Donc certains à qui on a donné tout à coup une espèce de pouvoir local sur les siens, on peut comprendre. Moi, j'essaie de me mettre à la place de n'importe qui, y compris de gens dont on pourrait dire des monstres. Enfin, il n'y a pas de monstre, hein. Banalité du mal, il n'y a pas de monstre. Et c'est la question de l'humanité, en fait, et de qu'est-ce que fait l'humain dans ces cas-là. Et donc, il y a la police juive officielle, il y a le numéro 13, qui sont les Pierre Lascar, tous les jeunes garçons qui ont participé à l'insurrection de Varsovie, les gens qui ont survécu ont été obligés, pour survivre, souvent, d'être des voleurs, ils n'étaient pas du tout... Voilà, enfin...
C'est là le projet pervers de ce ghetto, de toute façon.
C'est ça, c'est de les enfermer ensemble et donner du pouvoir à certains, sur les autres. Mmh. Voilà, le conseil juif aussi, c'était quand même très particulier.
Mmh, vous écrivez...
Tchernakov s'est suicidé, comme on le sait. Un de mes personnages le croise le jour où il part sur l'emplacement de l'actuel musée Paulin, du reste, où il part se tuer en fait à pied parce qu'on lui a, il a déjà plus de voiture. C'était le seul qui avait une voiture dans le ghetto. Et
vous écrivez, c'était un désastre inédit, sans égal, que Dieu ne revendiquerait pas.
Non, ça a été terrible quand même parce que ils ont eu l'impression d'être très abandonnés pour un peuple élu, même si ils étaient habitués aux persécutions, même s'ils étaient habitués à être errants, à devoir être errants, parce qu'on les chassait de partout. Mais en Pologne, il y a eu des périodes où ils ont été finalement assez bien accueillis, où ils avaient des droits, où ils avaient voilà, les mêmes droits que les autres. Et puis là, de toute façon, depuis le début du siècle, ça commençait à aller très mal. Après la crise de 29, il y en a beaucoup qui sont ruinés, et c'est le moment où l'antisémitisme commence de manière extrêmement, extrêmement forte et virulente. Il faut lire Singer hein, aussi pour ça, parce que c'est très explicite, mais c'est le rôle des Polonais, moi ça m'a beaucoup intéressé, les rapports des Juifs et des Polonais, et le peuple témoin, les Polonais, qui étaient quand même, c'est le seul endroit où il y avait une peine de mort pour qui aider les Juifs en Pologne à leur décharge. Mmh. Mais ça a été terrible, et encore aujourd'hui, c'est un problème. On a un gouvernement très conservateur, et d'après mes sources, il y a encore un tiers de la population polonaise, au moins, qui est largement antisémite. Donc, ils pensent encore aujourd'hui à une... Il y a une espèce de mythe, comme ce qu'on peut raconter parfois sur les Roms, de manière assez immonde. Ils pensent que les Juifs, en fait, volent des enfants, kidnappent des enfants et prennent leur sang pour faire la matza. Et il y a même des représentations de ça dans certaines églises polonaises. Sur le marché de Cracovie, où je suis allée me promener, ils vendent des figurines, qui sont des figurines de Juifs qui ont de l'argent. C'est-à-dire, et ça porte chance. On offre ça à ses amis pour leur, ou à sa famille pour leur porter chance. Donc, c'est des représentations de juifs, exactement comme les nazis on le faisait.
Alors, vous montrez bien.
Aujourd'hui,
tout,
hein.
Vous montrez bien cette vie du ghetto, les épreuves terribles, les assassinats comme ça, les exécutions sommaires. Et puis, il y a aussi des personnages lumineux, notamment ces femmes qui organisent. L'évacuation des enfants, racontez-nous.
Les femmes ont été formidables. Elles ont été assez héroïques. Bon, il y a eu tout, hein, parce que les mères avec leurs enfants, c'était quand même très compliqué. Il y en a qui étaient affamées, qui pouvaient arracher le bout de pain qui était donné dans un genre d'assistance sociale qui avait été mis en place dans des cantines où les enfants, on essayait de nourrir les enfants, mais et parfois justement, on obligeait les enfants à se nourrir sur place, parce que sinon la mère allait leur voler la nourriture. Donc il y a eu de tout, mais ces femmes dont je parle, et c'est inspiré du réel, une femme qui s'appelle Irena Sandler, qui était une Polonaise, elle pour le coup catholique, qui a aidé, qui travaillait dans le social déjà, et qui a mis en place, mais avec des juives à l'intérieur du ghetto, un réseau de résistance pour sortir les enfants du ghetto, puisque les premières victimes dans le ghetto, qui mouraient et qui parsemaient les trottoirs de leur corps, c'était les enfants. Les enfants de réfugiés souvent étaient orphelins, parce que les parents réfugiés à Varsovie dans le ghetto, c'était affreux. Ils n'avaient pas de logement. Enfin, ça a été vraiment horrible. Et donc ces femmes mettent en place un système qui permet de sortir les enfants du ghetto. Avec donc des contacts à l'extérieur qui les récupèrent, des familles qui sont payées pour ça, je le rappelle, c'est-à-dire que rien n'était gratuit. Voilà, donc il fallait beaucoup d'argent. Et ce qui était très intéressant, c'était les discussions qui ont vraiment eu lieu avec des gens d'ailleurs de Nek Shabbat sur faut-il donner nos enfants à des Polonais catholiques. Donc ils ne voulaient pas les donner trop jeunes, parce qu'ils avaient peur qu'on les convertisse, c'est souvent ce qui s'est produit du reste. Parce que c'est une ironie désespérante que de vouloir sauver le peuple juif en sortant leur avenir, c'est-à-dire des enfants, mais que ces enfants, pour les sauver, il faut qu'ils deviennent catholiques, et que donc ils ne vont pas être des enfants juifs, ils ne vont pas faire survivre le peuple juif, puisqu'ils sont devenus catholiques et polonais, ce qui s'est passé, puisqu'ils ont été intégrés dans des familles polonaises. Et après-guerre, quand des juifs qui avaient survécu ont su que certains des enfants avaient été restés en Pologne, avaient été intégrés dans des familles polonaises, ils ont essayé de les récupérer, et ça n'a pas toujours été évident.
Vous écrivez, hein, les plus prudents n'avaient pas survécu, les plus économes pas éviter l'indigence, les plus sages pas garder la raison, les plus honnêtes pas garder leur cap droit. C'est un monde à l'envers, effectivement, bouleversé.
On peut pas. Il y a plus de logique. C'est ce qui trouble Joachim, du reste qui est tellement matheux et qui effectivement c'est une espèce de façon de résoudre son angoisse, c'est que le monde est en gris. Et puis c'est aussi ce que les Allemands ont provoqué d'une certaine manière. Hein. Ils ont aidé à numériser le monde. Ils ont mis du chiffre. Il faut lire Klemperer aussi sur l'empoisonnement de la langue, mais qui nous a empoisonné nous aussi. C'est-à-dire qu'on a plus pensé de la même manière après les nazis. Il y a quelque chose d'ordre, de rationalité et de logique formelle, en fait, de sophisme affreux qu'ils ont mis en place. Et il y a, oui, une numérisation du monde. Tout à coup, tout est devenu chiffre, tout est devenu... Et voilà. Et en même temps, c'est l'absurde le plus total, parce qu'il n'y a aucune raison qui fait qu'on survive à part la chance. Après enquête, ça, on peut vraiment le dire, même si... c'était un enfant juif, c'était une fille, donc c'était plus facile de sauver normalement des petites filles, évidemment, parce qu'elles ne sont pas circoncises, blondes. Si vous étiez une petite juive blonde, qu'on sortait du ghetto, vous pouviez aussi bien mourir qu'un autre, parce que finalement, ce qui vous sauvait, c'était vraiment une histoire de chance. Il n'y a rien d'autre. Donc, il n'y a plus de logique, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus rien. Et ces enfants, au milieu de ça, c'est plus des enfants, en fait. Et c'est ce qui a été faux aux enfants du ghetto de Varsovie, qui est presque le plus grave, en fait.
Avec parfois, on sent une parole d'espérance que vous lâchez, comme le parrain qui essaie de tenir un orphelinat. Ayez des rêves ambitieux, il en restera toujours quelque chose de bon. Métine Arditi, vous avez lu La chasse aux âmes, vous écoutez avec nous Sophie Blandinière qui en parle. Qu'est-ce que vous ressentez ?
Alors écoutez, j'ai dû demander à ce qu'on m'envoie un deuxième exemplaire, parce que le premier s'est perdu. Avec le Covid, la poste entre la France et la Suisse, une catastrophe. Et j'ai reçu mon deuxième exemplaire ce matin. Alors, je me suis plongé dans le texte, j'en ai lu un certain nombre de pages, donc je ne l'ai pas du tout fini. Ce que je veux dire quand même, c'est que c'est un livre très fort. Et dès les premières lignes, on est pris, on est absolument saisi. Et si on continue la lecture, on sent qu'il y a un climat. Ça, c'est une des choses les plus rares dans un livre, un climat. Et je crois que Sophie Blandinière, qui en est à son deuxième roman, va devenir une très très grande romancière. Elle a quelque Merci. Chose en elle qui est très fort, qui est très beau, qui est très fort, qui est sans compromis, et un talent qui fait que vraiment moi j'ai adoré ce moment qui n'était pas très long ce matin, une petite demi-heure. J'ai adoré ce moment malgré l'horreur de la scène qui vous fait vraiment dresser les cheveux sur la tête. Mais j'ai adoré ce moment parce que j'étais dans quelque chose. Mon vrai regret aujourd'hui est de ne pas être là avec vous à Paris pour faire la connaissance de Sophie Blandinière.
J'avais apporté votre livre pour que vous me le dédicaciez, donc je suis bien embêté.
Ah, il faudra organiser la rencontre très bientôt.
Oui, alors en plus, n'est-ce pas, quand tout à l'heure j'écoutais Sophie Blandinière raconter mon processus d'écriture, il était tellement précis et tellement intime, je me suis dit, ça y est, il y a des gens qui vont se dire, mais c'est sa compagne. Donc, précisons les choses. Et ça montre vraiment à quel point elle est d'une, d'une sensibilité littéraire exceptionnelle. Vraiment, je me réjouis cet après-midi de reprendre la lecture et de la terminer certainement dans la journée.
Eh bien, vous ne serez pas seul. Manifestement, les auditeurs de RCF auront envie de lire ce livre. Alors, on va écouter un petit extrait lu par Stéphanie Gallet qui parle justement d'un témoin. On ne peut pas révéler d'un témoin qui a raconté cette histoire. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté dans le livre.
Elle n'a pas été surprise que je l'appelle. Je m'étais empressée. Elle n'avait pas eu le temps ni le désir de mourir. Elle m'attendait. Dans un café de la vieille ville, presque en face du château de Varsovie, elle semblait avoir toujours été là, devant son thé. Elle ne faisait pas âgée pour ses 79 ans, les cheveux soigneusement teints en blond, le regard d'un bleu intact, la beauté de sa jeunesse avait été loyale. Elle souriait, la même fossette au menton que celle de mon père, regardant par la vitre l'automne qui s'abattait en juillet. Elle ressemblait à l'une des femmes sur la photo dérobée à la volonté de ma mère, la plus jolie des trois, celle aux yeux de chat et aux pommettes hautes, une frange irrégulière et blonde qui dépasse de son voile d'infirmière. La deuxième, tête nue, vêtue aussi de blanc, un stéthoscope autour du cou et une cigarette aux lèvres, fixait le photographe, l'œil noir, émacié, les cheveux très bruns et courts. La troisième, de trois quarts, avait l'air de s'intéresser à quelque chose hors cadre. Elle portait une coiffe blanche ornée d'une croix et dessous, une raie au milieu et un chignon parfait.
On écoute la chanson « Ne dis jamais » qui est une chanson écrite en 1943 par un habitant du ghetto de Vilnius suite au soulèvement du ghetto de Varsovie dont nous avons parlé avec Sophie Blandinière. Sophie Blandinière qui a écrit « La chasse aux âmes » paru aux éditions Plon, et nous sommes aussi avec Metin Arditi pour « Rachel et les siens » publié chez Grasset.
Au pied de la lettre, RCF.
Et si on donnait une seconde chance aux romans qui sont parus durant ce premier semestre 2020, en plein confinement, en pleine épidémie, des livres sortis mais qui n'avaient pas de librairie pour être diffusés, des romans qu'on ne veut pas passer à la trappe. Bonjour Yves Viollier.
Bonjour Christophe.
Alors vous avez publié Louise des Ombrages, publié aux Presses de la Cité, un très beau livre dont vous allez nous parler, qui est sorti au mois de mars, c'est un peu ça ?
Trois jours avant le confinement, ça a été un petit peu, pour moi, le désespoir. Je me suis dit, ce livre est condamné. Et puis finalement, il continue de vivre grâce à vous, grâce aux lecteurs qui sont revenus vers lui à l'issue de sa condamnation.
Bon, alors parlez-nous-en. Dites-nous un peu, Louise des Ombrages, c'est quoi ? Quelle histoire ? Allez, vous avez trois minutes pour nous convaincre.
Louise, c'est une jeune femme qui, pendant les années 1930, a devant elle un très beau destin. Elle est artiste peintre dans le Marais Poitevin, qu'on appelle aujourd'hui la Venise verte aussi. Elle est artiste peintre. Elle a un avenir superbe puisqu'elle expose avec les plus grands au Salon d'automne, au Salon des indépendants. Et elle vient de mettre au monde un enfant. Sa peinture s'apparente à l'époque à celle de du Van Gogh de la première manière. Elle est proche de sa terre, elle est proche des gens de son pays. Et puis, voilà que dans son village du Gué des Marais, on la découvre un soir avec son père suicidé dans le cabinet de toilette. Ils se tiennent par la main, ils sont allongés sur un matelas et asphyxiés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Toute la question est là. Qu'est-ce qui a poussé Athanase, son père, et Louise à commettre ce geste ? À cette époque-là, on ne pardonne pas un suicide. Alors, les gens vont se poser des questions et peu à peu, Louise va disparaître, son œuvre va disparaître. Parce que Louise a véritablement existé, elle s'appelait Marie Renard.
Mais c'est ça, vous partez d'une histoire vraie, hein ?
Je pars d'une histoire vraie. J'apportais depuis une trentaine d'années cette histoire et je voulais la raconter. Quand je suis allé sur le terrain, sur place, pour mes repérages, j'ai rencontré les gens et j'ai senti des réticences. Le pays était encore blessé par ce qui s'était passé et on ne souhaitait pas que je rouvre la blessure. Et maintenant, j'ai rencontré des gens de la famille de Louise. Ils m'ont dit, vous pouvez raconter cette histoire. Et c'est donc le récit de l'histoire de cette femme de caractère, cet artiste, cette sensibilité assez exceptionnelle dans un territoire d'eau. Il y a ce pays-là, on l'appelle Venise verte aujourd'hui, il fait rêver pendant l'été. Imaginons ce que pouvait être ce territoire où on se déplaçait en barque dans les années 30. La solitude, combien une jeune femme à la sensibilité de Louise ou de Marie pouvait être écorchée. Voilà, je me suis lancé dans cette aventure et elle m'a véritablement passionné. Et ce que je voulais, c'est qu'on retrouve à la fois Athanase et Louise et que peut-être on les aime.
Mmh. Sachant qu'il y a toujours des parts d'ombre dans cette histoire avec lequel le romancier peut, j'allais dire jouer, le terme n'est pas tout à fait exact dans une histoire aussi dense, mais que vous racontez avec beaucoup de passion, comme vous l'avez dit, et aussi de sensibilité. Merci Yves Ollier, et puis on souhaite encore beaucoup de lecteurs pour Louise des Ombrages, c'est paru aux Presses de la Cité.
Au pied de la lettre, RCF.
Bonjour Stéphane Bataillon.
Bonjour.
Alors on a le plaisir de vous retrouver toutes les semaines pour une petite fenêtre poésie que vous allez nous proposer. Vous êtes vous-même poète, journaliste à l'hebdo La Croix. Et puis vous connaissez bien tout ce monde de la poésie. Chaque semaine on va découvrir avec vous un poète, peut-être aussi l'histoire de la poésie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez ?
Alors pour commencer cette chronique, je vais vous parler d'un poète, Frédéric Jacques Temple, qui nous a quittés, hélas, cet été, le 5 août, à 98 ans. Un poète solaire qui a consacré sa vie aux mots, à la défense de la poésie, et qui venait de sortir son dernier recueil, Par le sextant du soleil, aux éditions Bruno Doucet. Je vais vous lire un de ses poèmes.
On vous écoute.
Frontières dérisoires. Heureux sont les oiseaux, innombrables, multicolores, qui dans leur migration voyagent depuis l'origine des temps. Dans la musique de leurs chants, sur des étendues sans histoire et sans nom. Ils ne sauront jamais les douleurs de l'exil, ni les frontières dérisoires, dans le libre champ de la terre, où s'épanouit leur destin.
Magnifique. Moment de poésie. Merci Stéphane Bataillon. Et puis continuez comme ça à nous encourager à écouter et lire de la poésie.
Tout à fait. Il n'y a rien de mieux pour retrouver l'énergie chaque jour.
En cette rentrée de septembre, voilà, c'est Frédéric Jacques Temple pour Le Sextant du Soleil. C'est paru aux éditions Bruno Doucet. Petit moment de poésie. Merci beaucoup. Métine Arditi, alors après ce moment de poésie, on peut aussi parler du théâtre. Vous avez écrit que la prise de conscience d'un événement passe par la mise en scène.
Oui, oui, depuis toujours. Tout doit être mis en scène, et en fait tout doit être raconté. Alors le roman, c'est une expression qui appelle une forme de mise en scène particulière, c'est la mise en texte, le théâtre, ça va dans le même sens. Et voilà, il n'y a pas de... L'histoire, la condition humaine ne peut pas fonctionner si elle n'a pas des modèles dans lesquels elle se retrouve. Alors, bon, il y avait la Bible avec les histoires que l'on connaît, les évangiles, et puis il y a le théâtre qui est venu plus tard, mais qui est absolument irremplaçable. Et du reste, quand j'écoutais tout à l'heure Sophie Blandinière parler du théâtre dans le ghetto, il y avait 5 théâtres, ça dit tout. Mmh.
C'est l'importance, Sophie Blandinière, vous le soulignez aussi, hein, je parlais des livres qu'on brûle, parce qu'en fait, c'est un de vos personnages qui ne tient peut-être que par le livre, et qui va finir par aller négocier pour acheter des livres d'occasion, retrouver de quoi lire.
Lire et écrire, hein, c'était les deux pôles et c'est ce qui permettait de tenir, parce qu'il y a eu des livres dans le ghetto quand même, bien qu'on en a brûlé, il y a eu des livres dans le ghetto quasiment jusqu'au dernier moment, on pouvait en acheter sur le trottoir, j'y fais allusion à un moment, et donc la vie culturelle était essentielle pour survivre. Donc oui, le théâtre, et puis le théâtre, c'est une catharsis, et c'est une façon de mettre à distance et de peut-être de retrouver un début, une fin, un milieu, une construction là où il y a du chaos. C'est ce qu'on fait, de construire sur du chaos ou de trouver du sens dans de l'absurde. On passe son temps à faire ça, et encore plus dans des périodes comme celle-ci.
Mmh. Il y avait cette période dramatique, il y a aussi ce que nous vivons aujourd'hui, Metin Arditi, et vous écrivez encore « La mission du peuple élu est de rappeler combien l'exil est douloureux ». On parlait de la Méditerranée au tout début de cette émission, on sait aussi combien de personnes perdent la vie en traversant cette Méditerranée, en cherchant, en cherchant le bonheur peut-être, ou en cherchant tout simplement à survivre. Oui, la mission du peuple élu est de rappeler combien l'exil est douloureux, c'est aussi la mission du romancier.
Alors, tout à fait. Moi, je crois que vraiment la littérature est irremplaçable. Vous savez, si j'ose, j'ai encore quelques secondes pour raconter une petite histoire. J'ai un cher ami à Paris, qui est un grand écrivain, qui est juif comme moi, qui ne partage pas du tout mes idées concernant le Proche-Orient. Disons qu'il est plus à droite. Il a lu mon texte, il m'a écrit, et dans sa note, il y avait ces mots: tu as ébranlé mes convictions. Alors que sur ce sujet, on a discuté 100 fois. Il n'a pas bougé d'un millimètre. Mmh. Mais le propos du roman est vraiment de rentrer dans le lecteur de façon tellement intime que, à la fin, il pose les armes.
Poser les armes. Bah voilà, écoutez, ça sera le mot de la fin pour cette émission. Merci à tous les deux de votre participation. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Rachel et les siens, de Metin Arditi, publié chez Grasset, La chasse aux âmes, de Sophie Blandinière, chez Plomb, Louise des ombrages, d'Yves Violier, aux presses de la Cité, et Par le sextant du soleil, Frédéric Jacques Temple, aux éditions Bruno Doucet. Merci à Pierre-Henri Paget qui était à la réalisation, à Stéphanie Gallet, Stéphane Bataillon, Yves Violier. Merci Metin Arditi, merci Sophie Blandinière. Au pied de la lettre, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine.